Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité de ce dimanche 13 mars 2022. En Ukraine, la Russie poursuit son offensive. D'après le président Volodymyr Zelensky, 1300 soldats ukrainiens sont morts depuis le début de l'invasion russe. Et puis l'horreur en République démocratique du Congo, au moins 60 personnes auraient perdu la vie suite au déraillement d'un train. Enfin, en France, des milliers de personnes ont manifesté hier pour la défense du climat, un thème qui jusqu'à présent n'a quasiment pas été abordé par les candidats à l'élection présidentielle. Une fois encore, nous ouvrons ce journal avec l'Ukraine où l'armée russe poursuit son offensive, notamment autour des grandes villes comme la capitale, Kiev, mais aussi Mariupol ou encore Odessa. Alors où en est-on exactement ? Élément de réponse avec Vincent Souriau de Radio France Internationale.
Les positions sont stables depuis le début de la matinée. Il y a toujours ces campagnes de bombardement massif visant plusieurs villes du pays, mais s'agissant des mouvements de troupes, pas d'avancée majeure, même si les forces russes grignotent du terrain petit à petit aux abords de Kiev. Elles se trouvent désormais à 25 km environ du centre de la capitale ukrainienne, où les sirènes ont de nouveau retenti ce matin. La stratégie de l'armée ukrainienne, on la connaît, c'est de harceler avec de petits groupes très mobiles les convois de tanks et de véhicules blindés qui s'avancent sur les principales routes de la région. Ces groupes bénéficient des armes anti-chars livrées par plusieurs pays occidentaux, ces lance-roquettes très maniables qui se portent à l'épaule et qui provoquent des dégâts sur les colonnes russes. Pour l'instant, on ne voit toujours pas d'offensive au sol venue de Moscou, pas de véritable coordination avec un appui aérien qui permettrait aux soldats russes de réaliser des percées rapides, et les Ukrainiens en profitent toujours pour tendre des embuscades et tenter de désorganiser la machinerie de Vladimir Poutine.
Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est lui de nouveau adressé à sa population en postant une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Il y affirme que 1300 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion, mais que les pertes côté russe seraient 10 fois plus importantes. Volodymyr Zelensky s'est également entretenu avec des journalistes et il leur a dit que pour que la Russie s'empare de Kiev, il leur faudra raser entièrement la ville.
Якщо вони будуть робити коврове бомбардування і просто вирішують стерти.
If they kill us all and enter Kyiv, if that is their goal, then let them come. If they carry out carpet bombings and wipe off the historic memory of the entire region, the history of Europe, they could enter Kyiv.
En République démocratique du Congo, au moins 60 personnes sont mortes dans le déraillement d'un train près de la ville de Louboudi. Ce train de marchandises, qui appartenait à la Compagnie congolaise des chemins de fer, a fini sa course dans un ravin, avec à son bord de nombreux passagers que ce train n'était pas censé transporter. Sur place, Clémentine Lutanda, administratrice du territoire de Louboudi, est revenue sur ce drame au micro de RFI.
Il y a eu un train marchandises qui venait du côté du Kasaï, arrivé à 19 kilomètres de Louboudi vers Luena. Le train n'a pas su monter la pente, d'où le train sont tombés dans les ravins. Nous avons des blessés, il y a des blessés qui sont ici à Louboudi, il y a des blessés qui sont du côté de Luena, les morts, plus ou moins 60 personnes. Les blessés graves, c'était 35, 19 sont du côté de Luena. Les autres, on les a amenés ici à Louboudi. Bien sûr, il y a aussi des blessés légers, les enfants abandonnés. Il y a par exemple un enfant de 2 ans, sa maman et son père sont décédés sur place. Tous sont là-bas à l'hôpital. En tant qu'autorité, j'ai assisté les malades. On a amené à manger et les médicaments. On a acheté les draps pour qu'on puisse enterrer les morts. On est en train de les enterrer. La Croix-Rouge est là, les scouts sont là, les gens sont là pour l'enterrement.
Direction maintenant la Colombie, où aujourd'hui on vote. Plus de 30 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour désigner les membres du Congrès. Ils sont appelés également, ces électeurs, à se prononcer dans le cadre de primaires pour choisir le représentant de chaque parti aux prochaines élections présidentielles qui, elles, se tiendront au mois de mai. Les sondages sur place semblent indiquer une percée à venir de la gauche face à la droite au pouvoir. Une percée qui suscite l'enthousiasme d'une partie de la jeunesse. Reportage à Medellín de Najet Benrabah, la correspondante de RFI en Colombie.
Devant l'entrée de l'université UPB, la Bolivariana de Medellín, les discussions vont bon train. À quelques heures du scrutin, beaucoup sont encore perdus, mais il est certain qu'il faut aller voter. Alma Lopez a 18 ans, cette étudiante votera pour la première fois.
On veut que les institutions publiques retrouvent leur force, car les gouvernements antérieurs les ont affaiblies et ont permis que la corruption, le clientélisme et le reste s'installent.
Son camarade Sébastien Lujan a 20 ans. Il étudie l'architecture.
C'est difficile de choisir, mais on doit voter, même si c'est pour le moins pire. Car sinon, qui sait à qui on va laisser le pouvoir? Mieux vaut donc voter pour le moins pire que ne pas voter du tout.
Selon les sondages, la jeunesse serait séduite par la gauche, notamment pour impulser une série de réformes et de changements dans le pays, longtemps dirigé par la droite. Ce dimanche, l'abstention, qui est souvent élevée, sera la clé du scrutin. Najet Benrabah, Medellín, RFI.
Et en Arabie Saoudite, c'est un triste record qui vient d'être battu, puisqu'en une seule journée, 81 personnes condamnées à mort ont été exécutées. D'après la presse officielle et les autorités du royaume, parmi ces condamnés à mort, il y avait des criminels auteurs de meurtres, des membres d'Al-Qaïda et de Daesh, ainsi que des rebelles houthis du Yémen. Le précédent record en la matière remonte à 2016, année durant laquelle le régime saoudien avait exécuté 47 personnes en une seule journée. En Australie, le Premier ministre Scott Morrison continue de défendre la réponse apportée par le gouvernement fédéral aux inondations qui ont frappé le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, très critiquées en effet, notamment en raison de la lenteur du déploiement des forces armées dans les zones inondées. Scott Morrison a réaffirmé sur Nine News que dans ce genre de situation, c'est toujours la communauté locale et non les services de secours ou l'armée qui interviennent en premier.
I understand the frustration because in a disaster like I have seen up in Lismore, no response is ever going to be able to meet the overwhelming need. And the first response always comes from the community, and then it comes from the SES, and then the ADF comes and supports that.
Et on en a parlé plus tôt cette semaine. Scott Morrison, au cours de la semaine, a également fait plusieurs annonces concernant la défense de l'Australie. Il a annoncé notamment une augmentation des effectifs de l'armée de 30% d'ici à 2040, mais aussi la construction à venir d'une nouvelle base de sous-marins sur la côte Est, une base qui accueillera à terme les sous-marins nucléaires que l'Australie compte acquérir dans le cadre du pacte AUKUS et qui, eux aussi, devraient être livrés au plus tôt en 2040. Sur ces sujets, le Parti travailliste est en accord avec la coalition. En revanche, Brendan O'Connor, le porte-parole des travaillistes en matière de défense, estime que l'Australie a des défis bien plus pressants auxquels il faut répondre avant 2040. Et d'après lui, le gouvernement Morrison n'a rien fait pour s'y préparer. C'est ce que Brendan O'Connor a confié à nos confrères de ABC.
We have advice that talks about an immediate and intense risk to our national security, except we do not see increased firepower to our current defence assets. And we need to see those platforms with better firepower, which will bring about increased deterrent now, not in 2040, not in 2038. And that's one of the problems with this government. It talks big, it delivers very, very little.
Dans le Queensland, trois policiers et un suspect sont dans un état grave à l'hôpital après une collision frontale en voiture. La police était en train de se rendre à South Caboolture où on leur avait signalé une agression au couteau lorsque leur voiture est entrée en collision avec un véhicule utilitaire qui était conduit par l'homme suspecté d'avoir poignardé son colocataire. Au total, ce sont donc 5 personnes qui sont à l'hôpital, a expliqué l'inspecteur de police Craig White.
You've got three police in serious condition. You've got one suspect in serious condition as well. And you've also got a victim
of a stabbing who's listed as serious as well and also been taken to hospital.
Une soirée agitée également à Melbourne ce samedi où deux personnes sont mortes de leurs blessures après avoir chacune été attaquées au couteau en deux endroits différents de la ville. On a d'abord retrouvé deux hommes poignardés dans le quartier des Docklands à l'issue d'une bagarre. Une seule des deux victimes a survécu, elle est toujours en état critique. Et puis, au cours de la même soirée, un jeune adolescent a également perdu la vie après avoir été poignardé avec une arme blanche dans le secteur de Cobourg South. En France, hier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté, pour certains en soutien à l'Ukraine et pour d'autres pour défendre le climat et puis aussi des fois pour les deux causes à la fois. La question du climat jusqu'à présent a été très peu abordée par les candidats à l'élection présidentielle, élection dont le premier tour aura lieu dans moins d'un mois, le 10 avril prochain. Marie Cohuet, porte-parole du mouvement pour le climat, a expliqué à nos confrères de RFI la raison de cette mobilisation.
L'urgence climatique et sociale aujourd'hui, c'est un enjeu de vie ou de mort. Et que c'est pour ça qu'on se mobilise. Il va falloir que nous, en tant que citoyens, on mette tout en œuvre pour que ce soit ces sujets-là qui soient à l'agenda pendant la campagne présidentielle, parce que c'est nos vies. Il y a énormément de jeunes qui sont mobilisés aujourd'hui. Il y a aussi énormément d'organisations. C'est pas simplement des organisations environnementales, c'est des organisations qui se battent contre la pauvreté, comme la Fondation Abbé Pierre ou comme ATD Quart Monde. C'est des organisations qui se rassemblent tout ensemble. C'est plein de citoyens, des jeunes, des moins jeunes. Et l'idée, c'est que pendant toute l'élection, on va faire croître cette dynamique qui va y avoir de plus en plus de monde. La semaine prochaine, il y a la grève des jeunes qui aura lieu le 25 mars. Et nous, on annonce une marche encore plus massive la veille du premier tour qui va avoir lieu, notamment avec les mouvements féministes, antiracistes, environnementaux. Et on sera tous ensemble pour porter ces sujets à ce moment-là.
On termine ce bulletin d'information en jetant un œil à la météo de ce dimanche en Australie. Quelques nuages aujourd'hui dans le ciel de Perth où il fait 27 degrés. On monte en revanche à 32 degrés à Adélaïde où aujourd'hui il fait très beau. Grand ciel bleu aussi à Melbourne ce dimanche et 29 degrés au thermomètre. Le temps est plus couvert aujourd'hui à Sydney avec 25 degrés et quelques averses prévues au cours de la journée. Risque de pluie aussi sur Melbourne, il y fait 27... Non, pardon, excusez-moi, pas à Melbourne, à Brisbane. À Brisbane, il fait 27 degrés et il y aura un peu de pluie aujourd'hui. Enfin, le mercure va afficher 33 degrés à Darwin où on attend également de la pluie aujourd'hui.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.